Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien chers amis, avant de commencer ce sermon, deux nouvelles pour ceux surtout qui m'écoutent sur Internet. D'abord, j'ai eu une annulation pour la retraite d'avril, première retraite. Donc, je peux prendre encore une personne pour la retraite d'avril, la retraite de mai pleine, et j'ai de la place pour toutes les autres retraites. Deuxième nouvelle importante, j'ai commencé sur Internet, donc j'ai mis ça déjà sur la chaîne d'Anne-Marie, était également sur la chaîne Internet d'Anne-Marie. Donc l'étude monumentale de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Il a fait un travail énorme en 1856 de 12 volumes, quelque chose que je voulais étudier depuis des années et des années. J'ai commencé à m'y mettre et j'ai décidé de faire une synthèse de tout ça, d'une série de conférences. Il y en aura pas mal parce qu'il faut à peu près 3-4 conférences par volume. Alors, il y aura donc une quarantaine, une cinquantaine de conférences sur ce sujet. J'ai déjà mis les 3 premières conférences sur la chaîne Internet et les 2 premières sont déjà sur YouTube. Donc c'est des conférences d'une heure et demie donc sur le sujet de la Révolution à partir des textes de Mgr Gaume. Donc c'est passionnant, vous verrez. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez travailler cela, surtout pour ceux qui, à l'étranger, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le plan spirituel, je dirais. Nous allons aujourd'hui parler évidemment de ce magnifique thème de la transfiguration. Notre Seigneur Jésus-Christ qui choisit 3 apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, qui monte au sommet du Tabor et qui est transfiguré devant eux. En principe, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, devrait montrer sa divinité à tout le monde. Souvent on dit que la transfiguration est un miracle en soi, non? Le miracle, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ cache sa divinité. Mais il montre sa divinité, puis exactement, il montre une toute petite partie de sa divinité. Ça suffit déjà pour que les apôtres tombent la face contre la terre, complètement affolés de ce qu'ils voient. Il est très intéressant de voir ce que disent les pères sur ce sujet. C'est un des sujets qui a été le plus étudié par les pères de l'Église. Et les pères de l'Église parlent non pas d'une transfiguration, mais de 7 transfigurations. C'est peu connu, mais c'est magnifique dans les pères. Transfiguration, c'est un changement. Changement d'apparence. La nature reste. Notre Seigneur Jésus-Christ reste avec une double nature, humaine et divine, mais il change son apparence. Et les pères expliquent que cette transfiguration à notre Seigneur Jésus-Christ va représenter une autre transfiguration, qui est la transfiguration de l'âme. Une âme qui s'approche du confessionnal, par exemple. Qui est en état de péché mortel, toute noire. Notre Seigneur a quitté cette âme. L'ange gardien de cette âme pleure parce que son protégé est en état de péché mortel. La Sainte Vierge Marie n'ose même pas regarder cette âme. Cette âme se confesse. Et au moment où le prêtre, ça prend 15 secondes, dit simplement « Ego te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, tes péchés sont pardonnés en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a une transfiguration totale de l'âme. L'âme devient toute lumineuse comme un diamant qui brille au soleil. Le bon Dieu revient, le démon s'en va, l'ange gardien trouve le sourire. C'est ça la transfiguration. Mais il faut comprendre qu'il peut y avoir une double transfiguration, positive ou négative. Parce que l'âme passe l'état de péché mortel à l'état de grâce, c'est une transfiguration positive, évidemment. Mais il faut faire attention que la transfiguration peut aussi exister dans l'autre sens. Parce qu'une âme à l'état de grâce perd la grâce sanctifiante par le péché mortel, c'est aussi une transfiguration, mais cette fois-ci négative. Et les pères de l'Église ont beaucoup parlé justement de cette transfiguration. Des fois, demander au bon Dieu en ces débuts de carême, justement, qui nous apprenne à transfigurer notre âme. Que notre âme devienne un miroir sur lequel se reflète la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le démon veut rentrer dans une âme, il regarde sur le miroir de cette âme. Le démon est un ange, attention. Donc il a certains pouvoirs, il a le pouvoir des esprits angéliques. Donc il peut d'une certaine façon regarder dans l'âme. S'il voit dans l'âme se refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ ou l'image de la Sainte Vierge ou les deux, il s'en va en courant parce qu'il sait qu'il ne veut pas rentrer dans cette âme. Au contraire, s'il voit se refléter dans cette âme l'image d'un confrère, un confrère de l'enfer, et bien il va revenir, nous dit l'Évangile, avec 7 démons pires que lui. Et donc, il faut toujours vérifier justement que nous sachions utiliser les temps de pénitence pour le transfigurer dans le bon sens. D'où la nécessité pour nous, surtout pendant le carême, bon, d'utiliser la prière, la pénitence, les sacrements et l'étude. Les quatre fonctions, les quatre obligations essentielles d'un catholique. Prier, faire pénitence, utiliser les sacrements et se rapprocher ainsi du bon Dieu, avec l'étude aussi, sans oublier. Alors, quelles sont les six autres transfigurations? Le Père de l'Église explique que la première, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est la première transfiguration. Au moment précis, votre Sainte Vierge Marie a donné son fiat, a dit qu'elle acceptait de devenir la mère du bon Dieu. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va déjà se transfigurer dans le sein très pur, notre Sainte Vierge Marie, tout petit, comme une tête d'épingle. Dieu s'incarne, Dieu prend chair. Il prend une nature nouvelle. Au ciel, avant le 25 mars, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ n'existait pas, attention. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé d'exister au moment où la Très Sainte Vierge Marie a donné son accord. C'est la plus belle créature de Dieu. La plus belle créature de Dieu, c'est sa propre humanité, évidemment. C'est sa propre âme. L'âme et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ ont été créés de toutes pièces au 25 mars. C'est la première transfiguration. Deuxième transfiguration, nous disent les pères, c'est le baptême de notre Seigneur. C'est presque le même texte que celui d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ, reconnu par Saint Jean-Baptiste, va être baptisé par lui dans le Jourdain. Et il va y avoir la même scène, littéralement. On va entendre une voix du ciel qui va prononcer devant tous les témoins: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Il y a même une colombe qui va commencer à venir voltiger au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, la transfiguration, pour bien montrer que cette transfiguration manifeste justement la Sainte Trinité, les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père qui parle du haut du ciel, le Fils qui est baptisé, et le Saint-Esprit manifesté par la colombe. Et donc ça, c'est la deuxième transfiguration, ou plus exactement la troisième. Ensuite, après l'incarnation, après le baptême, il y a évidemment la transfiguration d'aujourd'hui au Tabor. C'est la même scène qui se renouvelle. De nouveau, notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa divinité ou une toute petite partie de sa divinité. Et les pères de l'Église expliquent que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa divinité aux Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean pour détruire en partie le scandale de la Passion qui allait arriver, parce que c'était quelques jours avant la Passion. Le scandale de la Passion qui va pousser malheureusement les apôtres à oublier complètement ce qu'ils ont vu, oublier la divinité de notre Seigneur. Alors pour leur rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il montre sa divinité ou une partie de cette divinité. Il leur rappelle: attention, je vais être écrasé pendant la Passion, je vais devenir comme un esclave crucifié entre deux bois, mais n'oubliez pas que je suis Dieu. Et malheureusement, les apôtres ont oublié cela. Et nous, on est un peu pareil. Nous, on est un peu pareil aussi, surtout aujourd'hui, dans cette situation actuelle. Des hommes d'Église, on pourrait aussi oublier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens, hélas, se découragent en voyant les catastrophes qui se passent à Rome avec l'Église de Vatican II, avec la dégringolade morale partout dans le monde. Eh bien, ne pas oublier, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il a la vision béatifique sur la croix. Son Église est toujours divine. Même si son Église, humainement parlant, se réduit en nombre, l'Église est toujours divine. Et donc, il faut prendre justement dans cette fête de la Transfiguration toutes les forces pour augmenter notre foi et se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le démon peut écraser l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme peut écraser malheureusement l'humanité de l'Église catholique. Mais l'homme ne peut pas, le démon ne peut pas écraser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité de l'Église catholique. L'Église catholique reste une sainte catholique et apostolique aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Mais n'oublions pas que à ces quatre notes de l'Église, une sainte catholique et apostolique, il faut rajouter la note, une certaine note qu'on peut appeler la note de persécuté. L'Église est une sainte catholique et apostolique, et parce qu'elle est une sainte catholique et apostolique, l'Église sera persécutée. Donc, si l'Église est persécutée, soyez pas étonnés si Avouez-moi, on l'est aussi, dans le monde moderne. Alors, comprenons donc que toutes ces différentes transfigurations sont là pour nous montrer justement à quel point notre Seigneur Jésus-Christ travaille en cachant sa divinité dans notre humanité pour nous donner du courage. Une âme en état de grâce est une âme qui a en elle-même une partie du paradis. Alors, le Père de l'Église explique qu'après cette transfiguration, d'abord, il y a une autre transfiguration. Et pas la transfiguration du vendredi saint. Alors là, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît comme un lépreux. Un lépreux. Il n'y a plus en lui ni forme, ni beauté, dit le prophète Isaïe. Plus rien. On ne voit plus qu'un homme. Et en plus, un homme écrasé, broyé par la douleur. Et quelle douleur! Eh bien, les pères de l'Église expliquent que c'est aussi une transfiguration. La divinité semble se cacher, notre Seigneur Jésus-Christ va cacher littéralement sa divinité, il semble cacher sa divinité pendant la Passion, pendant le Vendredi Saint surtout. Et au contraire, on va voir cette divinité éclater de nouveau à la résurrection. Et donc les pères de l'Église parlent de ces deux autres transfigurations. D'une part, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le Vendredi Saint, et après, la transfiguration de la résurrection. Transfiguration de la résurrection, l'ange qui vient de son aile pousser la pierre tombale, et notre Seigneur Jésus-Christ qui sort glorieusement du tombeau avec les privilèges des corps glorieux et qui va continuer son apostolat auprès des apôtres pendant les 40 jours jusqu'à la fête de l'Ascension. Et les pères de l'Église expliquent que c'est un petit peu notre histoire. Nous aussi, on passe par tous ces stades-là. On passe par l'incarnation. L'incarnation correspond au baptême. Le baptême, c'est aussi une certaine transfiguration. Et quelle transfiguration dans notre âme? L'âme, littéralement, de l'enfant, avant le baptême, appartient au démon. Attention. C'est pour ça qu'il y a des exorcismes pendant le baptême, c'est pas pour rien. Il y a deux exorcismes. Et le prêtre, pendant l'exorcisme, donne l'ordre au démon. Exit, abeo, et sort de cet enfant. Donc, c'est une première transfiguration. Et puis après, il y a aussi le passage obligatoire par le calvaire. Le calvaire représente aussi pour nous les conséquences du péché. À chaque fois que je commets un péché grave, me dit Saint Curé d'Ars, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon cœur. La résurrection, au contraire, correspond à la confession. Au moment où je reçois l'absolution, mon âme ressuscite d'entre les morts, exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix? Notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix pour prendre sur lui nos péchés. Nous faisons faire pénitence pour nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ fait pénitence pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ prend littéralement, se charge de nos péchés, c'est comme se recouvre d'une peau, la peau de l'humanité, pour payer pour nous, parce que nous ne voulons pas payer par nous-mêmes et prendre nos responsabilités à cause des conséquences de nos péchés. Enfin, les pères de l'Église parlent d'une dernière transfiguration. C'est très beau ce qu'ils disent. La dernière transfiguration dont ils parlent, la septième, c'est la transfiguration de la Sainte Eucharistie. L'hostie, un bout de pain, qui, tout en restant apparemment du pain, devient la substance du corps, du sang, de l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une autre transfiguration dont parlent les pères, justement. Et notre Seigneur Jésus-Christ, s'il va apparaître aux apôtres en montrant une partie de son humanité, il va se donner à nous dans la Sainte Eucharistie en cachant non seulement sa divinité, mais aussi son humanité. Les apôtres du calvaire voyaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, pardon, au tabord voyaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils voyaient une petite partie de sa divinité, ce vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ qui devient blanc, blancheur que une blanchisseuse ne peut pas obtenir d'un habit, et le visage de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient rayonnant comme le soleil, c'est le symbole de la divinité, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît. Et bien, à la Sainte Eucharistie, notre Seigneur cache et son humanité et sa divinité. Voilà pourquoi il nous faut augmenter notre foi, mais réaliser à quel point notre Seigneur Jésus-Christ nous aime pour se donner à nous. Les apôtres ont été paniqués en voyant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez que Dans la Sainte Communion, notre Seigneur Jésus-Christ nous apparaît un peu comme il est apparu au calvaire, avec un soleil extraordinaire, une lumière éblouissante. Il faut qu'on n'ose même pas s'approcher de la Sainte Eucharistie. On tomberait à genoux, affolés, en disant, mais on ne peut pas s'approcher d'une gloire pareille. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ se cache. Comme il se cache pendant la Passion, notre Seigneur Jésus-Christ aussi se cache pendant pendant la messe, au moment des précieux, le prêtre donne l'ordre, c'est vraiment ce qui se passe, l'ordre à notre Seigneur Jésus-Christ de descendre. Il descend. Ceci est mon corps, notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon sang, notre Seigneur Jésus-Christ descend. C'est extraordinaire. C'est ça la Sainte Communion, c'est ça la Sainte Messe. Le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Il faut aussi méditer sur certaines des paroles que nous trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui. Une parole qui m'a toujours frappé à chaque fois que je lis cet évangile, c'est la parole de Saint Pierre. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour nous d'être ici. Il faudrait que ce soit vraiment la parole que tous les catholiques disent lorsqu'ils s'approchent. Ce qui rentre dans une église. Même un simple oratoire, un humble oratoire comme celui-là, il faut qu'à chaque fois que nous venions, nous assistions à la messe le dimanche, eh bien, lorsque nous rentrons dans la chapelle, on fait la génuflexion devant le Saint-Sacrement, on se met à genoux, il faut pouvoir dire au bon Dieu, mon Dieu, il est bon pour moi d'être ici. Et de même qu'il faut dire au bon Dieu, il est bon pour moi d'être agenouillé au tribunal de la pénitence. Il est bon pour moi d'être agenouillé sur le banc de communion pour recevoir la Sainte Communion. Et si vraiment du fond du cœur, on pouvait dire, du fond de notre cœur, Seigneur, il est bon pour moi d'être ici, ça veut dire j'ai envie de rester, c'est ce que veulent faire les apôtres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent à notre Seigneur Jésus-Christ? Ils veulent que ça dure. Ils disent, on va faire trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour vous, et on va rester ici tous ensemble, tellement on est heureux d'être là auprès de vous. Moïse et Élie, ben, sont les deux, le prophète. Les législateurs qui ont annoncé notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ continue et l'aboutissement des prophéties et de la loi mosaïque, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu apparaître entre Moïse et Élie. Eh bien, si vous voulez, nous, on arrive derrière. Moïse, Élie, notre Seigneur Jésus-Christ, et maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ se donne à moi, se donne à nous, par la Sainte Eucharistie. Et donc, il faut. Justement, vraiment pouvoir dire cela, il est bon pour nous d'être ici. C'est tout le miracle aussi de l'éducation des enfants. Donner aux enfants un amour du bon Dieu tel que l'enfant puisse vraiment dire à chaque fois qu'il se retrouve à la chapelle, il est bon pour moi d'être ici. Contrairement à ces adolescents, parfois même de familles catholiques, qui, quand ils rentrent dans la chapelle, ont l'impression qu'ils portent le poids du monde sur leurs épaules. Puis dès qu'on prêche plus de 5 minutes, on les voit commencer à regarder leur montre. Ils ont l'impression, on a l'impression qu'ils sont au supplice. Un supplice. Et puis le prêtre n'a pas plutôt fini de terminer la messe. Pouf, ça, ils sont déjà en train de papoter dehors. Voilà. Et bien nous, il faut agir différemment. Vraiment, demander au bon Dieu de pouvoir être convaincu de ces choses-là pour pouvoir convaincre les enfants, commencer par être convaincu soi-même. Bon. Un jour, j'espère, le bon Dieu vous donnera des enfants, pour ceux qui sont mariés. Eh bien, il faut justement méditer cette phrase-là. Il est bon pour moi d'être ici. Avoir cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, comme l'image que j'aime beaucoup aussi, c'est l'image de Sainte Marie-Madeleine. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive à Béthanie, il est avec ses disciples, évidemment, 13 personnes à nourrir. Et puis Sainte Marthe, elle court partout, en cuisine, donnant les ordres à tous les serviteurs pour préparer le repas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis elle va voir notre Seigneur, elle lui dit, pouvez-vous pas demander à ma sœur de m'aider un peu? Et qu'est-ce que répond notre Seigneur? Marie a pris la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. Qu'est-ce que faisait notre Seigneur? Qu'est-ce que faisait Sainte Marie-Madeleine? Elle était aux plaies de notre Seigneur, en train de boire ses paroles. Mais il faut qu'on soit pareil. Faut qu'on fasse la même chose. Une deuxième phrase qui me frappe dans l'évangile d'aujourd'hui, après la transfiguration, qu'est-ce que dit notre Seigneur aux apôtres? Ne craignez rien, ne craignez pas. Vous avez eu peur en voyant cette divinité. Ne craignez pas, je suis toujours avec vous. C'est un peu la même image qu'on retrouve lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est endormi au fond de la barque, les apôtres paniquent complètement parce que l'orage a éclaté et que la barque est en train de prendre eau de toutes parts. Ils vont couler. Et notre Seigneur Jésus-Christ dort sur un coussin. Et notre Seigneur se lève. Et qu'est-ce qu'il va dire aux apôtres? La même phrase. Ne craignez pas, homme de peu de foi. Il nous dit la même chose. À nous aussi, il dit la même chose. Ne craignez pas, homme de peu de foi. Évidemment, humainement parlant, l'Église catholique semble être complètement éclipsée. J'ai l'impression d'assister à une éclipse de l'Église catholique. L'Église est en train de se réduire, comme disait Cardinal Pi, à des dimensions domestiques. Ne craignez pas, je suis toujours Dieu. Même si je cache ma divinité, notre Seigneur Jésus-Christ pourrait faire un grand miracle et convertir Macron demain matin. C'est possible, ça. Il pourrait convertir tout le gouvernement. Il peut le faire. Il est Dieu. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un chef d'esclave. Il veut que nous utilisions notre volonté propre pour nous sauver. Combien de temps cette crise va durer? On ne sait pas. Notre Seigneur Jésus-Christ pourrait aussi convertir M. Bergoglio et en faire un nouveau Saint-Pédis. Ça changerait bien les choses. Ce serait plus facile pour tous. Mais là, mon Dieu ne permet pas. Prions. Et ne nous décourageons pas. Et notre Seigneur va finir en disant aux disciples, levez-vous. Levez-vous, ça veut dire, sortez de votre torpeur, sortez de votre fatigue, sortez de vos découragements. Puisque je suis Dieu, maintenant vous savez vraiment que je suis Dieu, ne craignez pas, je suis la voie, la vérité et la vie. Alors demandons cette force, mes bien chers frères, demandons ce courage, ce qu'il en faut. On a tous besoin, moi le premier, demandons le courage d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut que nous soyons comme ça dans le monde moderne. Ça ne veut pas dire qu'il faut pérorer à longueur de journée sur notre Seigneur Jésus-Christ, non. Mais agir, penser, se comporter comme un enfant du bon Dieu. Dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu social. Simplement par la façon de se comporter. Il faut que les gens puissent voir la différence. Cette personne, elle est catholique, ça se voit. En demandant à la très sainte Vierge Marie, elle n'était pas au Tabor. Elle n'avait pas besoin d'être au Tabor. Parce qu'elle, elle n'avait aucun doute. Elle savait très bien que son fils était Dieu. Donc elle n'est pas au Tabor. Mais elle est celle par laquelle toutes les grâces passent. Donc cette foi dont nous avons besoin, cette grâce de la foi, d'une augmentation de notre foi, elle doit passer par la très sainte Vierge Marie. Donc profitons du carême aussi. Si, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être de dire le chapelet tous les jours, profitons du carême pour justement dire notre chapelet bien tous les jours, pour demander la protection de notre Sainte Vierge Marie, la protection de la Sainte Famille, de Saint Joseph. Le mois de mars, c'est le mois de Saint Joseph, nous aurons la grande fête de Saint Joseph le 19 mars. Demandons à Saint Joseph, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous rapprocher chaque jour davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si nous ne voyons ni son humanité, ni sa divinité, nous savons qu'il est là, présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et qu'à chaque fois que le prêtre prononce les paroles de la consécration, comme je vais le faire dans quelques minutes, notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Le même qui est apparu aux apôtres. Le même qui est notre Sainte Vierge Marie a reçu sur ses genoux le jour de la naissance, le jour de Noël. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, puisqu'il est toujours avec nous, il va nous dire la même chose, ne craignez pas. Et nous aurons à répondre, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.